Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va refaire ensemble le premier cours de notre module, l'argumentation. Le premier cours qu'on a fait déjà en classe, je vais essayer de le réexpliquer pour vous. Qu'est-ce que l'argumentation? Comme on a dit en classe, l'argumentation est un mot qui relève de la langue courante, mais qui désigne également un champ de recherche qui peut atteindre un degré de spécialisation, voire d'hermétisme. Une démarche possible lorsqu'on s'interroge sur la ou les définitions possibles de l'argumentation est de chercher à mettre en regard les définitions spontanées, ordinaires de l'argumentation, telles qu'elles peuvent émerger par exemple au sein d'une classe d'apprenants, et les définitions savantes proposées par les spécialistes du champ. Donc, on va voir ensemble quelle est la définition courante de l'argumentation et quelle est la définition de savante, c'est-à-dire la définition de spécialisation. Alors, pour la conception courante de l'argumentation, il peut s'agir de propos qui servent à persuader, convaincre, démontrer, faire comprendre ou expliquer, s'exprimer, etc. Il peut s'agir de donner des raisons. Argumenter, c'est donc produire un discours rationnel. Argumenter, c'est le contraire de manipuler. Il peut s'agir d'une activité de parole. On la voit comme une forme particulière de discours ou comme une activité de pensée. On la définit comme un raisonnement. Il peut également s'agir d'une argumentation visuelle exploitant l'image. L'argumentation est parfois vue comme associant au moins un argument, une raison à une conclusion. Elle est donc considérée comme une séquence de discours qui se décompose en deux mouvements, les deux composants étant parfois articulés par un petit mot, le plus souvent désigné comme mot de liaison ou connecteur logique ou connecteur argumentatif. La plupart de ces nœuds définitionnels se retrouvent dans les définitions savantes de l'argumentation, où ils correspondent à des choix théoriques et méthodologiques caractéristiques d'écoles différentes. L'argumentation est utilisée dans la langue commune au sein de ces types de discours. On a le discours politique, lors des débats et des meetings entre les hommes politiques, etc. Les discours publicitaires, lorsqu'il s'agit de faire une publicité pour un produit ou pour un autre, et le discours judiciaire, généralement, on trouve ce genre d'argumentation chez les avocats pour défendre un accusé, etc., au sein des tribunaux. Il s'agit essentiellement de discours qui s'inscrivent dans un cadre que l'on peut qualifier d'institutionnel et souvent de discours de masse. S'ajoutent à ces situations les pratiques quotidiennes privées d'individu à individu, des pratiques argumentatives ordinaires. C'est-à-dire que, pour conclure, on peut dire que l'argumentation fait partie de la vie quotidienne des gens. Ils s'en servent tout le temps pour défendre leurs avis, pour défendre des thèses, pour défendre des positions politiques, sociales, etc. Quant à la conception savante de l'argumentation, alors un novice qui aborderait pour la première fois des études en argumentation serait amené rapidement au constat que l'argumentation entendue comme champ disciplinaire ne présente aucune unité et semble caractérisée par une dispersion des travaux. En effet, pour qu'on parle de paradigme scientifique pour l'argumentation, il faudrait qu'il y ait quelques conditions. Alors, la première condition, c'est l'existence d'un cadre notionnel commun à tous les gens qui parlent d'argumentation. Un partage d'un certain nombre de notions, concepts, de problèmes, de méthodologies, etc. Deuxièmement, un consensus sur un certain nombre de résultats acquis et sur un certain nombre de problèmes considérés comme dépassés. Et troisièmement, enfin, une bonne structure de la communication dans le domaine, c'est-à-dire que les gens doivent se lire, se critiquer, se réfuter lors de colloques, lors de réunions, etc. Force est de constater que ces conditions ne sont encore pas réunies actuellement. Pourtant, il nous semble que pour chacun des critères, une évolution continue témoigne d'une cristallisation du champ. En particulier, on peut observer l'émergence de rencontres scientifiques régulières consacrées à l'argumentation. Ces structures événementielles et éditoriales permettent une diffusion satisfaisante des travaux en argumentation et favorisent rencontres et échanges entre chercheurs. Le symptôme le plus évident de la dispersion des études en argumentation et leurs diverses appartenances disciplinaires. Une réflexion sur l'argumentation peut donc s'inscrire dans le cadre d'une théorie sociologique, philosophique, logique, communicationnelle, psychologique, littéraire, linguistique, etc. Et dans chaque domaine, bien sûr, l'argumentation change d'outil et de méthode. Il serait vain de chercher à réduire l'éclatement des approches de l'argumentation en reconstruisant une fausse unité à partir de cette diversité. En revanche, on peut circonscrire les différentes approches de l'argumentation en fonction des réponses qu'elles apportent aux questions suivantes. Donc, la première question est de savoir d'où émane l'argumentation, du langage ou de la pensée. Définit-on l'argumentation comme une activité de parole ou comme une activité de pensée. Si on considère que l'argumentation est avant tout une activité de pensée qui laisse des traces dans le discours, on s'inscrit dans une approche cognitive ou logique. Si on considère que l'argumentation est une activité linguistique qui s'accompagne d'une activité de pensée, qui produit des traces de pensée, l'étude de l'argumentation entre dans le champ des sciences du langage, que l'on se réclame de la linguistique pure et dure, de la pragmatique des interactions ou de l'analyse du discours. C'est la deuxième approche qui sera adoptée ici pour vous. L'argumentation est avant tout une activité de langage et l'analyse de l'argumentation doit rendre compte des formes langagières investies par le discours argumentatif. Il s'agit d'un choix essentiellement méthodologique qui ne conteste évidemment pas qu'à la source de l'argumentation. Il y est un raisonnement, fruit d'une réflexion. Simplement, ce qui est accessible à l'analyse, ce sont les discours et non pas les pensées, parce que on ne peut pas accéder aux pensées des gens si elles n'ont pas traduites sous une forme langagière. Nous considérons par ailleurs que chercher à dépouiller le raisonnement qui sous-tend l'argumentation de sa matière, langagière, pour accéder à ce qui serait une pensée pure, est illusoire. C'est pourtant ce que cherchent à faire nombre de travaux en argumentation, en particulier ceux qui sont inspirés de la logique formelle. Question numéro 2, il s'agit de la langue ou du discours, c'est-à-dire l'argumentation relève-t-elle du système de la langue ou est-elle produite en discours? Cette question ne se pose bien évidemment que si l'on considère l'argumentation comme une activité de langage. Certains auteurs considèrent que la langue, comme système de signes, est argumentative. L'orientation vers une conclusion est une propriété sémantique des phrases prises hors contexte. C'est en particulier la proposition défendue par Assombre et Ducrot qui construisent une théorie de l'argumentation dans la langue qui débouche notamment sur une étude systématique des connecteurs et qui développe une réflexion sur les topoi, c'est-à-dire que ici, l'argumentation va être étudiée au niveau des signes langagiers en dehors de son contexte de production. Pour d'autres, en revanche, c'est le discours en contexte qui est argumentatif. C'est dans cette perspective que s'inscrit l'approche rhétorique de l'argumentation, qui voit dans l'argumentation un mode d'organisation particulier des discours. Pour souligner l'importance de l'énonciation dans l'argumentation, Plantin parle d'argumentation rhétorique. De la même façon, une approche pragmatique de l'argumentation s'intéresse au discours en situation plus qu'à la langue. Donc, c'est la prise en considération du contexte de production du discours. La perspective qui nous est proposée ici s'inscrit dans cette deuxième approche. Il ne s'agit pas de négliger les ressources qu'offre chaque langue pour inscrire linguistiquement l'orientation argumentative des énoncés, mais c'est avant tout par rapport à un contexte d'énonciation donné, mettant en jeu des acteurs, des enjeux, des contraintes situationnelles spécifiques, qu'une argumentation devient identifiable et intelligible. C'est-à-dire que l'interprétation sera évidemment manquante si on enlève les arguments de leur contexte de production. La question numéro 3, s'agit-il d'un monologue ou d'un dialogue? L'argumentation se développe-t-elle sur des modes dialogaux ou monologaux? La réponse à cette question détermine ce qui sera considéré comme l'objet privilégié de l'argumentation. Est-ce que c'est des formes monologales ou dialogales de discours argumentés? Si l'on s'intéresse avant tout aux formes monologales, l'étude de discours argumentatifs produits par un seul locuteur, monogéré, amène généralement à travailler sur des textes écrits ou sur des monologues qui constituent souvent de l'écrit oralisé, tels que les allocutions des présidents, des ministres, etc., des hommes de la politique. Ce type d'objet relève classiquement de l'analyse de discours. Si l'on s'intéresse avant tout aux formes dialogales, l'intérêt pour des situations où des locuteurs développent en discutant des discours argumentés amène à faire appel à des outils d'analyse empruntés, d'une part à la pragmatique des interactions et d'autre part à tous les travaux sur l'oral. En réalité, présenter cette alternative comme un choix nécessaire est un peu artificiel. On peut fort bien travailler alternativement ou simultanément sur ces deux types de données. Mais la question 3 a un intérêt de souligner le fait que l'analyse argumentative demande à être couplée avec des disciplines rodées à des types de données spécifiques. Analyser une argumentation dans des échanges oraux quotidiens, par exemple, sans connaître les mécanismes propres à ce type d'interaction, peut amener à des contresens sur l'interprétation de certains phénomènes. Enfin, la question 4... S'agit-il d'une perspective normative ou descriptive? Une théorie de l'argumentation doit-elle chercher à distinguer les bonnes argumentations des mauvaises argumentations? Un autre choix de base qui se pose à l'analyste est l'alternative entre une approche normative et non normative de l'argumentation. Une approche normative de l'argumentation est une approche qui propose des critères pour distinguer les bonnes argumentations des mauvaises argumentations. Si l'on s'engage dans une perspective normative, encore faut-il définir ce qu'on considérera comme norme de l'argumentation. Donc, qu'est-ce qu'une bonne et une mauvaise argumentation? La norme. La première norme, c'est l'efficacité. On peut adopter une perspective pragmatique et considérer qu'une bonne argumentation est une argumentation qui fait agir le destinataire de façon désirée. C'est-à-dire, on va évaluer son efficacité sur le comportement du destinataire. La recherche de l'efficacité peut passer par la persuasion, faire croire, mais vise avant tout à faire faire, c'est-à-dire à faire réagir l'autre. C'est cette conception de l'argumentation qui intéresse les publicitaires ou les politiciens. C'est une approche qui trouve ses racines dans l'ancienne rhétorique. La deuxième norme, c'est la validité. On peut considérer qu'une bonne argumentation est une argumentation qui mène, à partir de prémices vraies, à une conclusion également vraie. Pour que le transfert de la valeur de vérité des prémices sur la conclusion soit garanti, il faut que l'argumentation soit valide. Il est classique d'admettre que seule la démonstration permet de découvrir la vérité ou de préserver la valeur de vérité des prémices vers la conclusion. Les règles que doit suivre une argumentation pour accéder au statut de démonstration et garantir la vérité de ses conclusions sont celles de la logique formelle. Le champ d'application privilégié de l'argumentation démonstrative est la science. La validité comme norme peut s'appliquer aussi au discours ordinaire. Les règles permettent de distinguer les bonnes argumentations des mauvaises, sont alors énoncées par la logique non formelle. Les contraintes de validité sont alors assouplies par rapport aux exigences de la logique formelle et prennent en compte des critères situationnels. Dans cette perspective, les règles dont le respect garantit la construction d'une bonne argumentation sont extrêmement variées et relèvent d'un code de bonne conduite conversationnelle. Une approche non normative de l'argumentation ne cherche pas à distinguer les bonnes argumentations des mauvaises, mais avant tout de décrire les argumentations menées par les locuteurs. C'est fondamentalement la perspective qui sera proposée pour vous. Elle s'inspire, dans une certaine mesure, de l'ethno-méthodologie qui se donne pour objectif de décrire les méthodes auxquelles ont recours les locuteurs qui cherchent à défendre le point de vue par le langage. Il peut sembler dommage de renoncer à une critique de l'argumentation. On peut considérer comme qu'une analyse descriptive est une sorte de préalable. Adopter une approche descriptive de l'argumentation ne signifie pas que le problème des normes soit évacué pour autant. On proposera de considérer que la question des normes intervient non pas au niveau des outils d'analyse, mais qu'elle est intégrée à l'objet de l'étude lui-même, telle qu'elle est conçue par Plantin. La dernière question, tendance au consensus ou au dissensus, c'est-à-dire l'argumentation tend-elle à l'instauration d'un consensus ou à l'approfondissement d'un dissensus. Cette alternative fait écho à un questionnement sur le but de l'argumentation et reflète une conception fonctionnelle. Pour certains, le but de l'argumentation est la construction d'un consensus, c'est-à-dire l'accord des de tous les partis, la résolution des différences d'opinion. On suppose que l'intention des locuteurs est de trouver un accord et que la subsistance d'un désaccord est un signe d'échec. C'est cette position que défendent les partisans d'une équation entre argumentation et persuasion. La persuasion étant considérée comme le vecteur, le moyen de réaliser un consensus. Pour d'autres, le but de l'argumentation est l'activation et l'approfondissement des dissensus. Ils doivent, dans la plupart des discours argumentés, la manifestation de l'incommunicabilité, c'est-à-dire la rupture de la communication, de l'impuissance du langage à changer quoi que ce soit dans les croyances ou les attitudes. C'est la position qui sous-tend la sémantique de la polémique de Dominique Menguenot. C'est plus récemment la position défendue de façon magistrale par Angenot dans son ouvrage dont le titre « Dialogue de sourds » manifeste clairement la défiance vis-à-vis de la capacité de l'argumentation à réaliser le consensus. On peut, de façon plus positive, considérer que l'argumentation permet d'exprimer des positions non conformes et constitue ainsi un garant de renouvellement intellectuel et du pluralisme démocratique. On peut prendre sur ce point une position de principe selon qu'on appartient au camp de ceux que Gerbrardt appelle les optimistes de la communication, ou c'est la volonté de coopération qui l'emporte. Il y a dans toute communication une préférence pour l'accord qui se manifeste dans les enchaînements, la gestion des tours de parole, la relation interpersonnelle et du traitement des différentes opinions, ou à celui des pessimistes de la communication, où la communication est avant tout agonale, conflictuelle, les relations sont des rivalités, d'opposition, de conflits, où la communication est nécessairement un jeu à somme nulle, ce que l'un gagne, l'autre forcément le perd. On peut aussi considérer que le but de l'argumentation varie en fonction de la situation où elle se déroule. Il peut y avoir recherche d'un accord, mais certaines situations posent par principe que le désaccord existant au départ subsistera à la fin. C'est le cas en particulier des débats télévisés entre politiciens, etc., où les invités sont supposés exprimer des opinions divergentes et les soutenir d'un bout à l'autre de l'émission. Donc ça, c'était pour le premier cours où il s'est agi d'une définition conceptuelle de l'argumentation et de ses rôles sociaux, politiques, institutionnels, etc. Merci pour votre attention.